Quatrième instruction.
Les choses que je voudrais vous dire, je ne m'en sais pas. Je n'avais pas envie de me lancer. C'est vraiment le frère Thibault qui m'y oblige, qui m'y entraîne. Et avant de me lancer là-dedans, parce que c'est extrêmement simple au fond, avec un cœur de chair illuminé par le Saint-Esprit, avec cet esprit principal dont parlait Mère Agnès à propos de Thérèse de l'Enfant Jésus, dont j'ai bien l'intention de vous parler en fin de compte, mais je me prépare, et je, pardonnez-moi de vous le dire, mais je vous prépare un peu aussi, vous voyez, pour entendre parler de Thérèse de l'Enfant Jésus, parce que ça ne se fait pas comme ça. Avec donc l'intuition du cœur, l'esprit principal qui animait Thérèse de l'Enfant Jésus, tout ce que j'ai l'intention de vous dire est très simple. Mais, justement, nous ne sommes pas Thérèse de l'Enfant Jésus et nous ne sommes pas... Alors, il est entendu que je me suis excusé d'avance auprès de toutes celles qui sont en retard, vous leur direz. non seulement nous ne sommes pas Thérèse de l'Enfant Jésus, mais nous résistons considérablement, parce que notre cœur n'est pas assez pur. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, et pour eux tout sera simple. Alors pour nous, c'est très compliqué. Et dans l'histoire de l'Église, on voit que c'est très compliqué. Et on voit que les théologiens ont couru des périls terribles à propos des choses dont je vais parler, et par conséquent les armes. Car les théologiens entraînent les prêtres qui entraînent les armes. Et puis quelquefois les armes n'ont même pas besoin des prêtres et des théologiens pour se compliquer la vie elles-mêmes, et pour dérailler ou dériver par rapport à ces choses. Mais avant de m'y lancer, puisque ça concerne en fin de compte ce fameux péché de l'ange dont le frère vous a parlé, sur lequel je voudrais revenir, je veux essayer de vous faire pressentir l'enjeu, la gravité de l'enjeu qui se cache derrière ces débats très redoutables. Je n'ai pas besoin d'évoquer pour vous, d'évoquer devant vous, le spectre de la guerre qui obsède tellement Jean-Paul II, bien entendu. Je n'ai pas besoin la guerre militaire, la guerre sociale, le terrorisme, les tortures. Ah, tout ça, vous connaissez. Je n'ai pas besoin d'évoquer tout ça. Mais au moins, c'est concret et grave. Et je lisais dans le Figaro, je crois, à propos d'une affaire qui a été soulevée en France, mais on pourrait en soulever plusieurs par jour de ce genre, si nous savions tout, d'un enfant qui a été enfermé par ses parents dans un placard pendant 12 ans, avec de mauvais traitements terribles, et dont on ne sait pas comment il a pu être protégé pour en sortir vivant de ce placard, alors qu'il avait un jeune frère ou une jeune sœur, je ne sais plus, un jeune frère qui était très bien traité. Et naturellement, il était soustrait aux écoles, il était soustrait à la société, on ne savait rien. Et alors le journaliste a fait un article sur le thème « Attention de ne pas se dire c'est les autres ». Nous sommes tous plus ou moins solidaires dans la responsabilité, dans la culpabilité à l'égard de ce genre de choses, et il visait particulièrement l'inertie dont font preuve les voisins, les connaissances, tous ceux qui sont plus ou moins au courant de ces choses et qui n'ont pas envie de se mouiller, de se battre pour les contrecarrer. Et alors, au-delà des voisins immédiats, il y a nous tous qui faisons preuve d'une certaine passivité, d'une certaine inertie devant ces choses qui, incontestablement, oui, or, ce que je veux dire, c'est que nous, notre attitude de base, notre attitude de fond, à l'égard de Dieu, à l'égard du prochain, à l'égard de nous-mêmes, a, en fin de compte, un impact sur ces choses. Mystérieux, invisible en partie, soupçonnable en partie, si nous étions plus aimants, si nous étions plus brûlants, si nous étions plus priants, si nous étions plus déchirés, plus crucifiés, de la bonne manière, bon, les choses iraient autrement. Mère Teresa le soupçonne fort bien et le dit fort bien. Oui, et ce que je voulais dire, je le retrouve, c'est que de toutes les choses horribles qui nous perturbent et dont nous sommes responsables, chacun à notre place, à notre mesure, ce qui concerne les enfants, qui, s'ils ne sont pas innocents du péché originel, sont innocents de presque tous les péchés personnels, dans que nous commettons, en tout cas nous, dans son placard, il n'avait pas grand loisir de s'enfler d'orgueil, cet enfant. Eh bien, en ce qui concerne les enfants, c'est particulièrement inacceptable, plus encore peut-être, que la bombe atomique. Ça devrait, en tout cas, nous mettre dans un état de, peut-être de révolte contre Dieu, c'est un danger, en tout cas de violence dans la question que Job pose à Dieu. Pourquoi? Pourquoi tout cela? Qui n'est pas suffisant de notre part. Et ça fait partie de notre responsabilité. Mais, si j'évoque ça, c'est pour vous dire, eh bien, si, dans l'histoire du monde, le tout premier cataclysme qui a enclenché ces choses quotidiennes que vous pouvez trouver dans votre journal d'aujourd'hui, je le sais d'avance, ou dans tous les journaux de la Terre, le terrorisme aussi dont on parle beaucoup, le premier acte qui a enclenché tout ça, c'est le péché de l'ange, qui dans la foi qui est la mienne, est la nôtre, parce que je ne l'ai pas inventé, mais reçu de l'Église catholique romaine, en cette foi, je veux vivre et mourir, eh bien, ce péché de l'ange, s'il ne l'avait pas commis l'ange, il est à penser, d'après le récit même de la Genèse, que nos premiers parents, eux-mêmes, n'auraient pas été trompés. Je ne dis pas que Dieu aurait dispensé l'homme de toute épreuve. Je dis, moi, dans le cinéma, dans l'histoire du monde, telle que la révélation me l'apprend, le commencement des catastrophes, c'est là. Et celle-là, elle était totalement irréparable en ce qui concerne les démons. Le péché de nos premiers parents, le péché des origines, est irréparable en un sens, totalement irréparable en un sens, par rapport à la justice originelle. Il n'est pas irréparable sous tous les points, à tous les points de vue, il est même réparable d'une manière tellement magnifique que l'Église chante « heureuse faute ». Bien sûr, heureuse faute. Mais dirons-nous « heureuse faute » à propos du péché de l'ange? Je n'oserais pas. Je n'oserais pas. Et je ne dirais pas non plus que ça ne nous concerne pas, car, eh bien, car les arguments que je viens d'évoquer, si pécheurs que nous soyons, notre grand péché, à commencer par nos premiers parents, c'est d'ouvrir la porte à l'influence des démons. Ça ne diminue pas, ça aggrave notre responsabilité. Certains théologiens ont dit que c'est trop commode de se débarrasser sur le démon de nos fautes, n'est-ce pas? Et ils croient donner à l'homme plus de densité en le rendant responsable de tout sans invoquer le démon. Moi, je crois que l'homme est bien plus responsable encore si nous savons qu'il a ouvert un robinet, comme l'apprenti sorcier, il a ouvert une brèche, il a permis à l'ennemi de s'installer dans la place, et à chaque fois que nos péchés permettent à l'ennemi, au démon, de s'installer dans la place, dans notre cœur, dans le cœur d'une communauté, dans le cœur d'un pays, d'une famille religieuse, d'une famille spirituelle, dans le cœur de l'Église, eh bien, il commet une faute infiniment plus grave que s'il n'y avait pas le démon. Et justement, comment comprendra-t-il sa responsabilité s'il ne croit pas à l'existence du démon et à son rôle ? Voilà pourquoi tout ce que nous allons dire, c'est grave. Voyez encore. C'est une introduction, n'est-ce pas ? C'est pour ça que j'avais besoin de prendre mon temps. Ces deux lignes de pensée qui, incontestablement, jouent un rôle puissant dans l'Occident au moins, et ailleurs, le socialisme et le marxisme. Bon, le socialisme a une base philosophique secrète ou avouée, mais fondamentale, sans laquelle le socialisme ne pourrait pas être le socialisme, c'est que l'homme est naturellement bon et accidentellement mauvais, à cause justement des structures sociales déficientes qu'il faut corriger. Corrigez-les convenablement. Vous avez le devoir d'être optimiste, sinon vous êtes un vilain pessimiste. Vous avez le devoir d'espérer que, une fois les structures sociales corrigées convenablement, l'homme fera paraître qu'il est naturellement bon et qu'il a été rendu accidentellement mauvais, plus ou moins pathologiquement, par des structures sociales perverties, mauvaises. Et c'est tellement vrai que c'est l'idée de base du socialisme que les chrétiens, les vrais chrétiens, qui ne partagent pas cette illusion, sont d'accord sur ce point avec les marxistes qui ne la partagent pas non plus. La base du marxisme, c'est tout autre chose. C'est pas que l'homme est naturellement bon et qu'il faut qu'il le devienne, c'est que l'homme est aliéné au départ par la crainte et qu'il faut le désaliéner par tous les moyens, et nous savons lesquels, sans qu'il soit besoin que je m'étende. Bien. Tout ça, justement, pourquoi l'homme n'est-il pas naturellement bon? Et pourquoi ne suffit-il pas de le désaliéner pour que ça marche? Pourquoi suis-je convaincu? Et alors là, tranquillement, même si je devais perdre la foi chrétienne, ça m'étonnerait que je trouve la foi socialiste ou la foi marxiste. Et à ce moment-là, je serais dans le péril d'un jeune marxiste qui m'a dit, d'une famille très chrétienne, bien entendu, parce que c'est toujours des familles très chrétiennes que sortent les marxistes les plus énergiques, c'est vrai partout, y compris en Pologne. Eh bien, ce jeune marxiste... chrétien d'origine, m'a dit, à un moment, il a changé depuis, mais alors ça c'est la faiblesse humaine, je dirais, hein. Il m'a dit, si l'espérance que j'ai, à partir, en m'appuyant sur le marxisme, venait à s'avérer fausse, car je lui laissais entendre que moi je ne pouvais pas partager une telle espérance, eh bien je me suiciderais. Il ne me resterait plus que ça. Et c'est la raison pour laquelle les marxistes se cramponnent tellement contre toute évidence à leur espérance. C'est parce que si on leur enlève ça, on leur enlève tout et ils n'ont plus qu'à se jeter à l'eau. Ou à se faire brûler vif, comme certains adolescents l'ont fait en France à une certaine époque. Tout ça nous oblige à réfléchir sur le péché de l'ange. Qu'est-ce que Dieu a offert aux anges et aux hommes, à nos premiers parents. Mais un premier point sur lequel je reviendrai peut-être après, parce que ça fait partie des déviations multiples qui ont eu lieu dans l'histoire de l'Église, et je ne peux pas tout dire à la fois, il ne leur a pas demandé du tout un désintéressement et un sacrifice tel qu'ils devraient renoncer au bonheur, à la béatitude. Ils étaient faits pour la béatitude, Dieu leur avait donné un cœur avide, assoiffé de béatitude et de béatitude surnaturelle. Ils en avaient un besoin irrépressible, dévorant, qui nous manque terriblement parce que nous sommes une nature déchue. Nous aurons à en reparler, mais n'anticipons pas, mais eux, il n'y avait pas besoin de leur dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ils avaient soif, une soif dévorante de la vraie béatitude, à tel point, vous ai-je dit, pour le premier parent, que tous les autres arbres, bah oui, très bien, mais le seul qui m'intéresse, c'est celui-là. La joie parfaite, le bonheur éternel, la vie divine. Alors, justement, dans l'histoire de l'Église, il y a eu des théologiens, des théoriciens, et dans l'histoire de la pensée humaine, qui ont rêvé à ce sujet d'un certain amour pur, tellement pur, qu'il renierait ce besoin de béatitude au profit du bien de l'autre, ou de l'autre qui serait aimé d'une manière tellement extatique. Je crois que c'est Richard de Saint-Victor, quelqu'un comme ça, ou, à moins que ce ne soit Hugues, je les confonds toujours ces deux-là, je vous en demande pardon, mais je soupçonne que c'est quand même Richard. Eh bien, pour aimer vraiment un autre, il faut renier tout désir personnel du bonheur, sinon notre amour n'est pas désintéressé. Vous voyez, il était d'avance tellement obsédé par l'objection de la Rochefoucauld, qui dit que même quand on se dévoue, même quand une mère se sacrifie pour ses enfants, elle y trouve encore son compte. Un compte très subtil, très raffiné, très sophistiqué, très bon à psychanalyser peut-être, mais enfin, encore, c'est encore toujours, comme dirait Freud, le principe de plaisir qui joue. Simplement, c'est un plaisir plus subtil. Quand on aime l'autre, très désintéressé, on sait encore son bonheur et son plaisir qu'on recherche. Et alors, pour refuser ça, ils ont imaginé un amour qui ne recherche plus du tout son propre bonheur. Et dans le quiétisme, il y a de ça, l'amour pur. Et dans un tout autre climat, mais aboutissant au même résultat, je prends mes précautions parce que tout ça nous menace, c'est pas pour le plaisir, c'est parce que tout ça nous menace dans la vie concrète, dans la vie quotidienne, le démon nous souffle dès que nous surprenons en flagrant délit d'égoïsme, qu'il faudrait, toujours au conditionnel, parce que la morale du démon c'est toujours au conditionnel. Tu devrais. Ah, si tu étais. La morale de Dieu, c'est toujours à l'indicatif. Tu dois. Ou veux-tu. Mais le démon, c'est au conditionnel. Ah, si je pouvais, etc. Bon, si je pouvais aimer sans aucun égoïsme. Et alors là, une caricature impraticable nous menace pour nous acculer au découragement, sinon au désespoir. Alors je me méfie. Et je vous mets en garde même contre cette fameuse morale kantienne qui a régné sur tout le protestantisme et sur tous les catholiques aussi, parce que tout ce qui a régné sur les protestants finit par régner sur les catholiques aujourd'hui, et selon laquelle, d'après Kant, la loi morale, qui est c'est-à-dire la perfection morale, qui vient de la raison, ce qu'il appelle la raison pratique, doit être justement une raison pure de toute affectivité. Si, dans l'accomplissement de ce « tu dois », vous faites intervenir le moindre mouvement du cœur, ce n'est plus la morale pure. C'est de l'égoïsme. Vous voyez, tout ça nous menace. Alors, je dis, Dieu n'a jamais demandé aux anges et aux hommes de renoncer, de renier, de piétiner, de sacrifier, voilà, de sacrifier au sens de mettre à mort, de refuser, c'est peut-être le mot le plus précis, cet élan qui les pousse vers le bonheur en général et la béatitude de Dieu en particulier. Au contraire, ce que Dieu leur proposait, c'est toujours appuyer sur cette soif. Tu as soif du bonheur, eh bien, alors, je te propose ceci. Je te propose quoi? Eh bien, là est le point que je voudrais essayer de préciser. Parce que nous avons soif du bonheur. Nos premiers parents et les anges avaient soif du bonheur surnaturel. Et parce que ils étaient dans un état imparfait, je ne dis pas pécamineux, aucun péché, aucun désordre, mais simplement une certaine imperfection. Et cette imperfection consiste en quoi? Eh bien, elle consiste en ceci, c'est que justement, pour tous les autres arbres que celui qui était interdit dans le paradis terrestre, pour tous les autres arbres, nous étions, nos premiers parents étaient dotés, et nous sommes dotés avec eux, de quelque chose qui s'appelle aujourd'hui l'agressivité, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire, ce qui fait face, pardonnez-moi d'être un peu technique, ce qui fait face, dit saint Thomas, au bien ardu. Quand on se trouve devant quelque chose de difficile à atteindre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on en met un coup. Voilà. On ramasse ses forces pour partir à la conquête du bien ardu. Pour reprendre la comparaison si aisée, si courante, si pratique, en somme, des fruits, si les fruits sont à portée de la main, alors suffit ce que saint Thomas appelle le concupiscible, pardonnez-moi ce jargon, bon, le simple désir, le simple amour, eh bien, on en a envie, on tend la main, on cueille le fruit et on le mange. C'est tout simple. Mais s'il est trop haut, s'il est un petit peu trop haut, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait intervenir ce que saint Thomas appelle l'irascible. On va ramasser ses forces pour s'élancer, pour sauter un peu plus haut que normalement on est capable de le faire. Ou bien on fait marcher l'intelligence. On cherche comment je vais y arriver. Comme les singes supérieurs auxquels on peut faire des expériences en leur suspendant des bananes qui sont hors de portée de leurs mains s'ils n'ont pas l'idée d'amener une caisse pour monter dessus. Alors il faut que travaille l'irascible. C'est-à-dire la faculté de se dire comment faire, il faut que j'y arrive, je veux y arriver. Il faut partir à la conquête de ce bien difficile à atteindre. Voyez, et c'est ça qui fait le sel de la vie. Ce sont les biens difficiles à atteindre. Les biens faciles à atteindre ne nous intéressent pas. C'est banal. Ce qui est bon et intéressant dans la vie, c'est ce qu'il faut mériter. Voyez la notion de mérite qui arrive tout de suite. Il faut décrocher la timbale et on a du plaisir, justement, si ça n'est pas été offert tout cuit, comme dit Blaise Pascal à propos de la chasse, le produit de la chasse, on n'en voudrait pas s'il était offert. Ce qui est intéressant, c'est de chasser et d'obtenir. Et alors, s'il y a justement une raison pour laquelle le bien mérite d'être chassé, d'être poursuivi avec effort, parce que ce bien est d'une qualité trop supérieure pour qu'il soit à portée de la main, alors notre béatitude naturelle, et surnaturelle aussi en un sens, atteint à son comble. Là, on va faire des efforts et on va être récompensé. Voilà, ça c'est dans notre nature, et ça n'est pas simple. péché, ce n'est pas un désordre, ce n'est pas une déviation. Il est parfaitement normal qu'en face de quelque chose qui se présente comme difficile à atteindre, comme supérieur à nos capacités normales, eh bien, on cherche à augmenter nos capacités jusqu'à une dimension moins normale, supranormale, et qu'on dise, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, comme les athlètes auxquels Saint Paul nous compare. Les athlètes s'entraînent pour obtenir un résultat pour une couronne périssable, nous pour une couronne impérissable, et bien ça vaut bien la peine d'en mettre un coup. Et allez donc, on va y aller. Bon, je crois que nos premiers parents étaient prêts à faire de grands efforts pour s'élancer, s'élever jusqu'à ce fruit mis hors d'atteinte, parce qu'il pressentait quand même bien qu'il y avait quelque chose de mystérieux dans ce fruit qui n'était pas comme les autres, qui n'était pas aussi facile à atteindre que les autres. Et les anges, eux, alors ils ont parfaitement compris que ce fruit était parfaitement rigoureusement hors d'atteinte, mais il y avait en eux tous une force qui les poussait à prendre leur élan pour essayer quand même de s'en emparer. Et cette force n'était pas mauvaise. Elle n'était pas mauvaise en soi. Avant d'aller plus loin, je tiens à dire que cette force qui met en somme sa confiance en soi-même, on peut être aidé de la grâce de Dieu, dira-t-on ensuite, mais en soi-même, avec ma volonté, ma bonne volonté, avec toutes mes énergies, avec ma fidélité, avec mon acharnement, avec ma violence, le royaume des cieux est offert et la porte en est ouverte, ce sont les violents qui s'en emparent. Bon, et en demandant bien entendu des renforts du côté de la grâce de Dieu, avec tous les auxilis, la dispute des auxilis, n'est-ce pas, avec l'auxiliaire, le supplément que Dieu ne manquera pas de m'offrir si je le lui demande, eh bien, je dois espérer y arriver. Je dois espérer y arriver. Bon, eh bien, cette attitude affective, qui pour le moment, telle que je vous la présente, n'est pas pécamineuse. Nous allons voir qu'elle est imparfaite, très imparfaite, et complètement insuffisante pour obtenir le bien divin, mais elle n'est pas pécamineuse. Cette attitude affective est l'âme, et le ressort, presque indestructible. Ben, ce serait à désespérer s'il était tout à fait indestructible. Ça va être toute la question, tout le mystère. Mais c'est l'âme, c'est le ressort de ce qui est devenu dans l'Église une hérésie, que nous croyons avoir renié, mais que vous ne pouvez pas prétendre avoir renié dans votre cœur tant que cette racine demeure. C'est la racine affective du pélagianisme et du semi-pélagianisme. Je vais m'expliquer. Le pélagianisme est cette hérésie qui dit le salut ne tient qu'à nous. La grâce, eh bien, c'est la révélation, c'est la parole de Dieu, c'est la loi, c'est tout ce que Dieu nous a donné pour savoir quelle est notre vraie destinée, quels sont les moyens pour y parvenir. Nous avons tout ce qu'il faut, à nous d'en profiter. Avec de la volonté, on arrive à tout, comme on me l'a dit souvent dans mon enfance, et je ne sais quel instinct, mais surtout ma lâcheté, ma faiblesse, mon manque de volonté, comme on disait, justement, me soufflait, peut-être le Saint-Esprit, que c'est pas vrai, ou que, en effet, avec de la volonté, on arrive à tout, y compris au désespoir et au suicide. Oui, et j'en ai eu des exemples. Mais le pélagianisme, c'est ça. Avec de la volonté, on y arrive, on doit pouvoir y arriver. Et si on n'y arrive pas, c'est qu'on n'a pas usé de notre liberté, de notre volonté, de notre irascible, de notre agressivité, comme Dieu voulait qu'on en use, c'est de notre faute. Bon, les semi-péraviens sont moins catégoriques, ils admettent la nécessité de la grâce, mais les semi-péraviens sont des gens qui comptent sur eux quand même, voilà. Aider de la grâce dont ils reconnaissent le besoin, la nécessité. Non, on ne peut pas y arriver sans la grâce. Mais on peut y arriver avec la grâce. Moyennant quoi, on a une attitude analogue, affectivement, à celle des pélagiens. On va en mettre un coup. Mon Dieu, aidez-moi. Les soldats combattront et Dieu donnera victoire. C'est une parole de Jeanne d'Arc. Alors, ah oui, c'est une parole de Jeanne d'Arc, elle était valable pour les batailles temporelles que devait mener Jeanne d'Arc, et pour les choses temporelles, je vous ai pas dit que c'était un péché jusqu'à présent tout ça. Pour les choses temporelles comme des batailles de Jeanne d'Arc, c'était justifié parce que les choses temporelles sont d'ordre humain, et alors en effet, il faut en mettre un coup, et la grâce de Dieu va faire la pointe, et Dieu donnera victoire, oui, pour les choses temporelles, mais pour la béatitude divine, est-ce pareil? Or, pour la béatitude divine, eh bien, ce que j'appelle le pélagianisme affectif ne lâche pas prise. Et il n'est pas tranquille tant qu'on ne lui a pas donné le moyen de se dire « j'y arriverai ». Voilà. Et il réclame, et peut-être que vous réclamez des prédicateurs, quelques recettes qui vous permettra d'y arriver dans des climats qui peuvent énormément varier selon les psychologies et les milieux, un climat austère, par exemple chez les jansénistes, car il y a une base, il y a une affectivité de type pélagien terrible chez les jansénistes, ils veulent y arriver. Mais il désespère d'y arriver. Voilà. Alors, dans un climat un peu austère, rigoureux, pénitent, on attend quelques recettes qui permettent, en matant la nature, et en la maltraitant, et en la piétinant, en traitant son corps comme un ennemi, on espère y arriver, et on attend des prédicateurs qui vous donnent des trucs pour y arriver de mieux en mieux. Voilà, c'est ça le pélagianisme affectif. Sous sa forme, je dirais, triste. Il y a une forme gaie. Oh, mais on va y arriver, ben oui, ayons confiance en Dieu. Et alors, on s'autorise de la confiance en Dieu, qui est quelque chose de névralgique dans cette histoire, mais on s'autorise de la confiance en Dieu pour garder l'attitude de dire, je vais y arriver. Mais oui, allons, ne nous laissons pas décourager. J'ai ce qu'il faut pour y arriver, allons, avec pas de drame, pas d'inquiétude, pas d'angoisse, pas de tout ça, pas de scrupules, on va y arriver. Et c'est toujours ça. Vous voyez, tant qu'il y a au fond de notre cœur, exprimé ou pas exprimé, le « je vais y arriver, on y va y arriver, on peut y arriver », on est pélagien affectivement. Avec le secours de Dieu tant que vous voudrez, c'est du pélagianisme. Alors, les hommes, ils n'ont pas compris ça du tout. Alors là, nos premiers parents, c'était exactement les premiers pélagiens. Ils ont, bon, on va bien y arriver quand même. Et ben voilà. Et vous voyez où ça mène. Le démon a bien compris qu'ils n'étaient pas assez lucides pour comprendre le danger du pélagianisme affectif, et quand ils ont dit faut pas y toucher, c'est-à-dire faut pas justement essayer d'y arriver, malgré l'interdiction, interdiction qui était une interdiction médicale. Le médecin qui lui dit, je vous interdis le sel, je vous interdis le beurre, je vous interdis le... C'est pas drôle, mais c'est pas pour nous mortifier, c'est pour nous sauver. Le sucre, par exemple, si vous êtes diabétique, enfin, je ne sais pas, ben, tout ça. Hein? Non. C'est parce que c'est dangereux pour vous. Dieu leur a dit, si vous touchez à ce fruit, vous mourrez, il est dangereux pour vous. Oh, mais non, dit le démon, c'est pas si dangereux que ça, allez, on va bien y arriver. Voyez. Oh, quoi, on va y arriver, quoi. Voilà le pélagianisme optimiste, pas du tout austère et rigoureux. Mangeons quand même, faisons un effort, soyons un homme. Pas tout le nietzschéisme, toute une espèce de révolte contre l'obéissance, la soumission, la docilité, l'humilité, de ces choses-là. Mais c'est humiliant, mais c'est aliénant. Allons, secouez-vous, soyez des hommes. Il faut y arriver. Mais tout, c'est déjà ça, le péché de nos premiers parents. On va pas se laisser aliéner, effectivement, déjà. Donc les premiers pélagiens affectifs sont nos premiers parents. Bon, nous savons ce que ça a donné, mais les anges. Ben les anges, ils pouvaient pas être pélagiens parce qu'ils étaient trop intelligents. Ils ont bien vu que ça marcherait pas. Que eux n'ont rien à faire. S'élancer pour s'emparer de ce fruit dont ils avaient faim et soif, Dieu leur a fait comprendre, et ils ont très bien compris, que c'était inaccessible. Voilà. Par conséquent, Dieu leur demandait de ne pas renier leurs désirs, surtout pas, mais de renier toute confiance en eux-mêmes pour s'emparer du fruit de leurs désirs. Il leur a demandé de renoncer à s'élancer vers cette béatitude avec leur propre force, même aidée de la grâce. Non, c'était pas ça, c'était autre chose. Il fallait briser cet élan pour faire la place à autre chose. Et cette autre chose s'exprime en une formule très simple, alors là, très très simple, que l'intuition du cœur comprend admirablement et que Thérèse de l'Enfant Jésus a comprise génialement. Alors, justement, quand on voit jusqu'où ça va, quand on s'appelle Thérèse de l'Enfant Jésus, alors on s'aperçoit que nous croyons comprendre, mais que nous n'avons pas compris. Dieu leur a dit, fais-moi confiance. Plus précisément, donne-moi ta confiance. Cette béatitude, c'est un don généreux, gratuit, que j'ai envie de te faire. Je suis gratuité. Je suis surabondance. Je suis générosité. Je suis folie de don. Et il existe, une doctrine qui précise cela en termes d'acier, qui est la doctrine trinitaire. Dieu est surabondance, Dieu le Père n'est pas plus parfait avec le Fils que sans le Fils. Si vous dites ça, vous êtes hérétique, parce que vous dites que Dieu le Père n'est pas infiniment parfait. Dieu le Père est infiniment parfait, et il donne à son Fils d'être infiniment parfait. Mais s'il est plus parfait avec le Fils que sans le Fils, alors il n'est pas infiniment parfait. Déjà au départ, hérésie. Donc, en un sens, du point de vue de notre petite tête, on voit pas pourquoi Dieu est trois. Et on le verra dans l'éternité, dans la vision. Mais sur la terre, ça nous est présenté comme gratuit, comme folie, comme surabondance, comme générosité, comme une espèce de danse que Dieu a voulu inaugurer avec son bonheur à trois, dans lequel, selon l'image d'un écrivain anglican génial qui s'appelle Lewis, eh bien, on se repasse la balle du bonheur à toute vitesse, et avec une telle vitesse, ça s'appelle la circumincession. Avec une telle vitesse qu'elle est tout le temps dans la main des trois, mais pas statiquement, dynamiquement, à une vitesse infinie. Alors elle est tout le temps là, mais tout le temps on se la donne, on donne, on n'arrive pas de donner, on ne cesse pas de donner. Vivre, c'est donner. Pour Dieu, vivre, c'est donner. Pour Dieu, vivre, c'est se donner. Et gratuitement. Déjà à l'intérieur de lui-même. Et à l'extérieur, le frère a posé la question, pourquoi nous a-t-il créé? Ben, en vertu de la même folie. Pas nécessaire, disent les théologiens, c'est contingent, tandis que dans la Trinité c'est nécessaire. Oui, d'accord, je le crois, je l'admets, mais je ne le vois pas. Je ne vois pas la différence. Je sais qu'elle est. Je sais que la Trinité est nécessaire et que nous ne sommes pas nécessaires. Mais je sais aussi, il ne faut pas l'oublier, que c'est la même gratuité qui est nécessaire dans la Trinité et contingente dans notre cas, mais qui entraîne le besoin que Dieu a de nous donner tout. Et alors Dieu dit, alors j'ai envie de vous donner tout, mais j'ai envie de vous la donner, cette béatitude. La prenez pas. Vous ne pouvez pas y arriver. Laissez-moi vous la donner. Mais pour ça, abdiquez votre mouvement irrépressible par lequel vous avez envie d'y arriver, de conquérir mon bonheur. On ne conquiert pas la béatitude. Voilà le drame des anges. C'était des gens capables, faits pour conquérir. Et c'est beau d'être fait pour conquérir. C'est pas un péché d'être bâti pour conquérir. Et je reprends ce que vous disait le frère en disant, mais ils auraient été prêts, eux, bien plus que nous, à souffrir n'importe quoi pour y arriver, pour obtenir, pour conquérir ce bonheur. Ils étaient capables, les anges sont très capables de souffrir, et ils nous en veulent beaucoup d'avoir ce privilège qu'on leur rendrait bien. On ferait bien l'échange. Mais eux aussi. Bon, peut-être qu'en effet, une fois dans notre misère, ils s'apercevraient, comme dit Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est très beau à dire quand on est dans le souffle de l'esprit, l'esprit est front et prompt, mais quand on est au fond du trou, la chair est faible, et qu'on trouve que c'est pas si drôle que ça. Alors là, ça, passons. En tout cas, eux, ils étaient prêts à souffrir n'importe quoi, y compris l'enfer, pour conquérir ce bonheur. Mais Dieu leur dit, non, ça n'est pas possible, il faut jouer un autre jeu. Dans lequel je n'ai pas du tout envie de vous en priver. Je veux au contraire, je vous demande d'avoir confiance que je n'ai pas envie de vous en priver, tout en vous demandant de ne pas vous en emparer. Et par conséquent, effectivement, de faire comme si vous y renonciez, je dirais. Comme si, d'accepter d'être frustré dans votre désir de conquête, pour me faire un cadeau qui pour moi est plus précieux que tout ce que vous pouvez faire d'autre pour d'autres, me donner votre confiance. Enfin, papa, maman, j'ai envie d'avoir ça, laisse-moi aller chercher, laisse-moi acheter ça. Bon. Tu l'auras, fais-moi confiance. Et alors, il faut vivre dans l'avant, dans l'attente, rester dans sa chambre, rester chez soi, et attendre que le papa ou la maman reviennent avec l'objet désiré. C'est pas facile, mais c'est pas difficile à la manière dont il est difficile de sauter en hauteur. C'est un autre genre de difficulté. Et c'est pas non plus, nous allons y revenir, difficile à la manière dont on se dirait, ben, je vais faire la prouesse d'attendre. Je vais attendre, parce qu'il paraît que c'est ça qu'il faut faire. Encore un truc, encore une recette. Mais c'est pas ça. Si c'est pas parce que gratuitement, à notre tour, par générosité, par amour, on donne au Père ou à la Mère ou à Dieu notre confiance, voilà, je te la donne ma confiance, ça sert à rien de faire du quiétisme. Je dirais que le quiétisme, c'est un pélagianisme de la gratuité. Je vais me mettre dans un état tel que Dieu me donnera tout. Mais si on n'y met pas le cœur, qui spontanément, parce qu'il se laisse toucher, fait confiance, donne sa confiance parce qu'il sent, parce que Dieu lui fait sentir qu'il veut donner tout, et qu'à son tour, notre tour, nous avons une occasion, une chance unique, on n'en aura pas deux, dans l'éternité on ne pourra plus faire ça. Mais dans l'obscurité de la foi, on le peut, pendant un instant. Et ce don sera éternel. Donner notre confiance, Alors, si on ne met pas sa joie dans l'idée de « chic, je vais faire un cadeau à Dieu », le reste, bien sûr, je le désire, mais plus que le bonheur, je désire encore lui faire plaisir, c'est ce que vous disait le frère hier. Alors, on est menacé de dire « eh bien non, tant pis, ce bien dont je voudrais... pour lesquels je serais prêt à payer tout ce qu'il faut payer pour le conquérir, tu ne veux pas que je le conquière, eh bien, je souffrirai tout ce qu'il faut souffrir pour m'en passer. Voilà le péché de l'ange tel que je peux le comprendre, c'est-à-dire très mal. Mais enfin, à l'aide de la révélation, on est bien obligé d'admettre que c'est quelque chose comme ça qui a eu lieu. La gratuité sans pélagianisme, c'est ça, le bon mouvement des bons anges, et le bon mouvement qu'aurait dû faire le premier parent, et le bon mouvement que nous aurons à faire aussi, je vous préviens tout de suite, dans des conditions très différentes, et c'est pour ça que ce sera compliqué à expliquer un peu, qu'il faudra ajouter bien des choses pour examiner comment tout ce que je vous dis ce matin se revit dans des conditions très différentes dans la nature déchue et rachetée. Alors là il y a toutes sortes de corrections de trajectoire, si je peux dire, à apporter à ce que je viens de vous dire, mais c'est toujours la même chose au fond. Et c'est pour ça que, en un sens, si je devais partir dans n'importe quel sens du mot, sans avoir terminé cette retraite, j'aurais dit l'essentiel, parce que je ne dirais pas autre chose. Mais je préciserai comment, malgré des apparences très différentes, c'est encore le même problème ou le même mystère pour nous. La gratuité, ce que Dieu attend de nous, c'est de répondre à sa gratuité par une gratuité non pélagienne, c'est-à-dire une gratuité qui n'est pas un truc pour y arriver quand même. Eh bien, la gratuité sans pélagianisme, c'est l'amour qui répond à la gratuité divine et qui répond sans réfléchir. Voilà. C'est ce sans réfléchir qui est la clé de tout. On se laisse toucher, comme disait le curé d'Ars, peuple insensible. Et comme disent tous les prophètes de l'Ancien Testament, tu ne te laisses pas toucher. Le salut commence quand on se laisse toucher par les grandes démonstrations ou les petites manifestations de l'amour de Dieu. Et alors, parce qu'on s'est laissé toucher, on répond sans réfléchir, avant de réfléchir. Et parce qu'on se laisse toucher, on crie comme Saint Michel, Michael, qui est comme Dieu? Qui est comme lui? Ne discutons pas, n'examinons pas, ne réfléchissons pas, disons oui avant de réfléchir, surtout avant de réfléchir. Et voyez, avant de s'engager dans le mystère de la passion, qui provoquait un tel scandale chez les disciples, jusqu'au point que Pierre éprouvait le besoin, justement, d'ouvrir la porte à Satan pour dire à Jésus-Christ, non, pas ça, hein, je suis là. Ça ne va pas se passer comme ça, que tu ne mettras pas, non, mais oh, je suis là. Arrière de moi, Satan. Bon. Eh bien, avant donc d'accomplir ce mystère de la passion auquel il ne comprenait rien, et il ne pouvait rien comprendre avant la Pentecôte, Jésus a fait un geste qui semble complètement disproportionné avec la passion, qui semble ne rien avoir avec la passion, et qui est l'âme et la clé et le secret du mystère de la passion, à condition qu'on se laisse toucher le lavement des pieds. Un geste complètement fou, mais de la même folie que la passion. Seulement ça, justement, nous avons beaucoup de mal à comprendre qu'entre la passion et le lavement des pieds, au fond, il n'y a pas de différence. Parce que la passion, ça nous paraît héroïque et en un sens, ça l'est. Bien sûr, c'est vrai. Mais c'est pas ça le principal. Le principal, c'est que c'est un héroïsme pas de l'ordre de « j'y arriverai ». C'est un héroïsme de l'ordre de l'amour qui donne sans réfléchir. Et c'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, mais laisse-toi faire sans réfléchir. Par conséquent, le péché de l'ange et le péché de nos premiers parents, c'est évident, c'est de réfléchir avant de répondre. Si vous vous mettez à réfléchir avant de répondre oui, avant de vous laisser toucher et de dire oui, mon Dieu, je te la donne, la confiance que tu me demandes, vous êtes déjà perdu. Et vous vous rattraperez jamais. Et alors vous tomberez dans le pélagianisme, le jansénisme, le calvinisme, le quiétisme, le molinisme, le molinosisme et tout ça, sans pouvoir jamais en sortir. Vous n'avez qu'un moyen, c'est de rire une bonne fois de toutes ces bêtises et de vous mettre en face de l'amour de Dieu qui est fou manifestement, qui se présente à vous dans sa folie, qui vous demande de vous laisser toucher par lui dans sa folie et de répondre avant de réfléchir. Après que vous aurez dit oui, alors là oui, parce que vous êtes dans un combat difficile et dans lequel il faut être simple comme des colombes mais prudent comme des serpents, alors une fois que vous aurez dit oui, ce qui vous rendra simple comme une colombe, alors il faudra réfléchir, beaucoup réfléchir, et c'est pour ça que nous allons continuer à parler afin de réfléchir à partir de cette intuition qui fut l'âme de la doctrine, en particulier de Thérèse de l'Enfant Jésus, afin que nous puissions associer à cette pureté, cette simplicité bête de la colombe qui dit oui sans compter, sans calcul, sans réfléchir, qui entre ainsi sans s'en apercevoir dans le salut de la gratuité, alors que nous puissions associer à la prudence du serpent qui ne se laisse pas dévier par tous les arguments des autres et de nous-mêmes de cette porte étroite du salut de l'amour pour rien, de Dieu pour nous et de nous pour Dieu.